Voici ce que dit l'Évangile concernant l'enterrement de Jésus.
Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent alors le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Jean 19, versets 38 à 42. Marc 15, 46 et 47 ajoute que Joseph déposa le corps dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Josée, regardaient où on le mettait. Matthieu 27, versets 62 à 66 dit « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Selon l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, l'Évangile se résume en 3 faits. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli ou enterré, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'ensevelissement ou l'enterrement de Jésus est important comme confirmation de sa mort. Il fut enterré parce qu'il était réellement mort. Et là, c'est une idée que certains ont eu du mal à accepter, surtout parce que Jésus est mort d'une manière humiliante, attaché à une croix, comme les plus vils des malfaiteurs. C'est ce qui est parfois appelé le scandale de la croix. Paul dit en 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24, « Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. La plupart des Juifs ne voulaient pas d'un Messie souffrant et humilié. Ils voulaient plutôt un Messie conquérant, qui se servirait du pouvoir miraculeux de Dieu pour les délivrer de l'oppression politique et militaire des Romains. La plupart des Grecs ne voulaient pas du Sauveur non plus. Ils voulaient un philosophe qui puisse les impressionner par sa connaissance et son éloquence. Mais les Grecs et les Juifs du 1er siècle n'ont pas été les seuls à être prédisposés contre le message de la mort et la résurrection du Christ. La plupart des musulmans n'acceptent pas l'idée que Jésus, qu'ils reconnaissent pourtant comme prophète, est mort sur la croix. L'argument le plus important se base sur la 4e sourate du Coran, qui dit au sujet des Juifs, « Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. » En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Ahnsa 4, 155 à 158. Ce passage a été expliqué de plusieurs manières par les musulmans. Certains disent que Jésus s'est caché, ou qu'un ange l'a protégé, alors que l'un de ses compagnons est mort à sa place. Certains disent que Dieu a fait que Judas Iscariote prenne l'apparence de Jésus, et que c'est lui qui fut tué. D'autres disent que Simon de Cyrène, qui porta la croix derrière Jésus, fut substitué pour lui sur le chemin du calvaire. D'autres encore disent simplement que les Juifs ont essayé de le tuer, mais ne l'ont pas pu, et que Dieu l'a fait monter au ciel sans passer par la mort. Toutes ces explications ont certains problèmes. Il y a par exemple un problème moral si nous disons que Dieu a employé ruse et tromperie pour faire croire délibérément un mensonge. Dieu est parfaitement saint, pur et sans péché. La Bible dit clairement en Hébreux 6, verset 18, « Il est impossible que Dieu mente. » Et en Tite 1, verset 2, « Dieu ne ment point. » Il avait ordonné dans la loi de Moïse, « Vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie les uns envers les autres. » Lui qui dit à l'homme de ne pas user de tromperie, userait-il, lui, de tromperie avec les hommes? Comment pourrait-on désormais lui faire confiance? Loin de Dieu, le Dieu de vérité, loin de lui l'idée de tromper des hommes et leur faire croire ce qui est faux. Il n'aurait pas employé sa puissance miraculeuse pour tromper des hommes. C'est Satan qui agit de cette façon. Ne déshonorons pas Dieu. Mais peut-on croire que, sans intervention miraculeuse de la part de Dieu, on aurait pu crucifier et enterrer un autre à la place de Jésus? Pendant qu'il était sur la croix, il était reconnu par le centenier romain et ses soldats, les passants qu'il avait entendu prêcher, les chefs des Juifs et les deux brigands. Il y avait aussi ceux qui le connaissaient intimement, des femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, sa propre mère et son disciple Jean. Son corps devait être facilement reconnaissable après avoir été enlevé de la croix, non seulement par son visage, mais aussi par les cicatrices de la couronne d'épines que les soldats avaient placées sur sa tête. D'ailleurs, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui ont enterré le corps, ainsi que les femmes qui observaient quand on préparait le corps, connaissaient tous très bien Jésus. Sans tromperie miraculeuse, ils n'auraient pas pu prendre un autre pour lui. Signalons qu'il y a une autre manière de comprendre le passage du Coran que nous avons lu. Dans le contexte, il s'agit d'un reproche adressé aux Juifs qui avaient rejeté les prophètes de Dieu, parlé contre Marie et se vanté d'avoir fait crucifier Jésus-Christ. En réfutant les Juifs, le Coran dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crucifixion, mais que même si elle a eu lieu, c'est Dieu qui en fut responsable. Les Juifs n'ont fait que ce que Dieu, le Tout-Puissant, leur a permis de faire pour accomplir son plan. La même sorte de langage se trouve dans la 8e sourate du Coran, qui parle des actions des musulmans à la bataille de Badr. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Al-Anfal 8, verset 17. Les fidèles musulmans ont, en fait, tué leurs adversaires. Mais ce fut uniquement selon l'idée de ce verset, avec l'aide et selon la volonté d'Allah. Cette façon de comprendre le passage sur la crucifixion de Jésus s'accorde mieux avec certains autres passages du Coran qui parlent de la mort de Jésus. Par exemple, dans la sourate 19, Jésus, encore bébé dans les bras de Marie, prononce ces paroles. « Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Et dans la sourate 3, Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. » Al-Imran 3, verset 55. Oui, Jésus fut crucifié et mis à mort. mais c'était selon la volonté et le plan éternel de Dieu. Au cours de son ministère, Jésus avait plusieurs fois averti ses disciples concernant la mort qu'il attendait. En Luc 18, versets 31 et 30 à 33, par exemple, nous lisons « Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Quand il était sur la croix, Jésus a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Ces paroles viennent du psaume 22. En les citant, Jésus portait à l'attention de tous que ce psaume avait prédit 1000 ans d'avance les souffrances qu'il subissait. Ce passage contient les mots exacts qui seraient employés par ceux qui se moquaient de Jésus. Il parle de la soif d'un crucifié, du fait que les mains et pieds du Seigneur seraient percés, que ses os se sépareraient et qu'on tirerait au sort en se partageant ses vêtements. Dieu avait vu et annoncé dans ce seul psaume de David. Mais revenons à ces paroles. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'était pas juste une manière de dire « lisez le psaume 22 et vous verrez que ma mort a été prédite en détail. » Jésus, pour la première fois depuis l'éternité, était séparé du Père, réellement abandonné. Il portait en ce moment les péchés du monde entier. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit au sujet de Jésus « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Or, Dieu ne peut tolérer le péché, ni être en communion avec le péché. L'Ancien Testament dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Habacuc 1, verset 13. Au jour du jugement, le Seigneur dira aux coupables « Retirez-vous de moi, maudits. » Matthieu 25, verset 41. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. La mort physique, c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Jésus a subi tous les deux pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Le message de l'Évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est peut-être un scandale pour certains. Mais pour nous qui croyons, il est véritablement la puissance et la sagesse de Dieu pour notre salut. Pourquoi nier la mort de Christ? Non seulement elle est attestée par l'histoire et par la parole de Dieu, mais sans elle, nous n'avons aucun espoir.